Voilà. Bonsoir à chacun. Alors, c'est un petit peu stressant pour moi de préparer un tel sujet parce que je ne suis pas un spécialiste. J'ai vécu au Laos, c'est sûr. J'y ai vécu dans le cadre de la mission évangélique. J'ai vécu dans un milieu bouddhiste. J'ai travaillé avec des Laotiens et des Asiatiques en France de manière plus générale dans un milieu bouddhiste. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'apprendre, j'ai appris la langue, mais essayer de comprendre la mentalité qu'il y a derrière, et encore plus une religion comme le bouddhisme, c'est pas facile. Alors, il y a des lectures, il y a des rencontres, il y a un monde complexe avec de la philosophie bouddhiste et une religion. Souvent très différentes l'une de l'autre, à première vue en tout cas. Et voilà, donc je vais essayer de partager un petit peu les deux aspects, hein, ce qu'on peut apprendre de la philosophie bouddhiste, un peu dans les livres, les documents, et puis le vécu des gens dans un pays bouddhiste. Alors dans le descriptif, il est question de témoignage auprès de gens d'une autre religion, culture. Alors moi, je dirais en préambule que, quels que soient les gens avec qui on est appelé à témoigner, je pense que c'est d'abord le témoignage de vie qui compte. Par les relations, par l'amour en acte, hein, pour reprendre ce qui nous a été dit dimanche, beaucoup plus que les discours, les théories, les raisonnements. Ça n'empêche pas, hein, d'entrer dans le dialogue avec le raisonnement et les questions de l'autre. Mais ce n'est pas ça qui convainc. Et je pense d'ailleurs à des contre-exemples. Moi, j'ai un ami. J'ai un couple d'amis. Lui est suisse, elle est laotienne. Ils ont fait une démarche quand ils sont arrivés, quand il est arrivé en Suisse avec son épouse pour qu'elle soit baptisée. Ils ont participé à des rencontres, des cultes qu'on avait avec les Laotiens par ici. Elle, je trouvais, avait une foi très personnelle, que je trouvais admirable en pensant à son vécu. Et puis voilà, ses amis sont retournés d'une certaine manière à une foi bouddhiste. Retournés, je ne sais pas, on peut dire ça pour lui, parce que lui, il était chrétien, mais peut-être un peu de nom à l'origine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que mon ami était fils d'un théologien renommé, un des traducteurs de la traduction œcuménique de la Bible. Et puis en fin de vie, il avait sa femme malade, et puis il avait une autre femme à côté pendant que sa femme était à l'hôpital. Mon ami a été écœuré par ça. Et puis, il a son fils qui était amoureux d'une fille, fille d'un pasteur évangélique. Et puis, il y a eu un choc, je ne vais pas expliquer, donner trop de détails, mais il y a eu un choc de conception des choses qui ont fait que pour mes amis, c'était tout à fait normal que ce couple commence sa vie commune, avec chambre commune et tout. Et pour l'autre famille, c'était impensable. Et puis le choc a finalement provoqué une rupture de ce couple. Et puis mon ami a été aussi écœuré par ça. Donc c'est des choses dans la vie qui les ont quelque part détournées de la foi. Donc, je crois que c'est surtout dans la rencontre et dans la vie qu'on témoigne. Et ce que je vois au Laos aujourd'hui, où il n'y a pas beaucoup de gens qui se convertissent, la plupart du temps, c'est les contacts avec la communauté chrétienne, c'est des guérisons, c'est des délivrances. C'est ça qui les amène à la foi, ce n'est pas des discours. Alors, avant d'aller plus loin, je vous pose une petite question. Qu'est-ce que vous direz, qu'est-ce que c'est une religion pour vous? Qu'est-ce que vous donneriez comme définition? Le contraire d'une relation. Ah, ah. Un système de croyance. Ouais. Quelque chose d'organisé. Ouais.
Un ensemble de dogmes.
Un ensemble de dogmes. OK. Ah, un clergé, oui. Bon, c'est intéressant parce que se pose la question, est-ce que le bouddhisme est une religion? Alors, ils disent que non. Certains disent que non parce que ce n'est pas une religion qui relie à Dieu. En principe, dans la philosophie bouddhiste, il n'est pas question de Dieu. Tout est centré sur l'homme et le processus par lequel il peut être arrivé à être délivré de, voilà, etc. Voilà. Mais en même temps, c'est aussi une religion, parce qu'on voit bien qu'il y a un clergé, qu'il y a une organisation, qu'il y a un enseignement avec des il est peut-être moins dogmatique que ce qui est souvent le cas dans les religions comme le christianisme, l'islam et le judaïsme, mais il y a quand même des enseignements précis. Alors, j'aimerais vous montrer, pour introduire un peu, des extraits d'un vieux reportage. C'est Armand qui m'a filé, il m'a filé une VHS, donc ça a été assez compliqué parce que j'ai finalement réussi à aller chez Daniel Strubin à enregistrer... à la faire marcher sur sa télé, puis à l'enregistrer avec mon téléphone portable, puis je vais juste vous montrer quelques extraits. Alors. En principe. Alors, j'espère que j'aurai le son. Juste le début de l'émission. Alors, je mets aussi ça là parce que j'ai... Ah, on va faire comme ça, voilà. Alors, désolé pour la technique un peu complexe là, mais on va essayer de se débrouiller. Je ne suis pas sur le truc.
Bienvenue sur ICI Télévision pour suivre avec nous durant la première partie de cette heure, bienvenue chez vous, le magazine d'Alain Bougard. Aujourd'hui, il vous emmène au centre tibétain Rabten Cholin, au Mont Pèlerin, où il est reçu par Gonza Rinpoche, chef spirituel et directeur de ce centre.
C'est marrant.
Voilà. Alors maintenant, je vous montre juste un tout petit extrait où on l'interroge sur la lévitation. Ça m'a intéressé parce qu'il me dit, ça c'est un petit truc que les Occidentaux, ils aiment bien, si on peut avoir des pouvoirs supranormaux. Alors, je vais à 13:50.
Et la lévitation, est-ce que c'est une
lévitation,
histoire?
Oui, non, non, c'est vrai. Nous ne considérons pas ça quelque chose, un but très important dans notre recherche spirituelle. Mais une faculté, un pouvoir comme ça peut atteindre, hein, avec le pratique de la concentration d'abord et le contrôle sur l'énergie subtile du corps.
Donc ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, non, non, non. C'est vraiment quelque chose de physique.
Oui, 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 physique, oui, oui. Mais ça ne passe pas exactement comme montré dans la... dans la Tintin, mais en principe,
est-ce que ça veut dire que
comme ça et l'évitation, c'est quelque chose qui est tout à fait possible.
Est-ce que ça veut dire que le corps perd son poids en fait au sens littéral?
Oui, oui, oui. Quand nous avons gagné le contrôle total sur notre esprit et sur notre énergie subtile, à ce moment-là, nous pouvons atteindre beaucoup de faculté comme ça, beaucoup d'expériences comme la lévitation très sensation de cet légèrement du corps et l'esprit. Elle-même, vraiment, l'éviter sur Terre, c'est tout possible. C'est pas, mais nous considérons pas une chose comme ça, comme un but que nous devons travailler. Parce que la chose la plus importante, c'est le développement spirituel, le développement de notre esprit, alors le développement de compassion et sagesse et tout
amour. Voilà. Et les maîtres comme vous,
Je trouve intéressant que finalement, il dit oui, on peut tout à fait l'éviter, mais c'est le développement spirituel qui est important. Voilà. Alors, une petite séquence sur ce qu'il peut y avoir de commun avec le christianisme que je trouvais intéressante aussi. Alors, 1653.
Vous êtes installé dans un pays qui est de tradition chrétienne. Est-ce que vous avez, avec les chrétiens, quelque chose en commun? Je sais, par exemple, le pape a rencontré sa sainteté, le Dalai Lama, et je crois que le Dalai Lama a dit que le pape partageait ses vues sur un certain nombre de points. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
Nous avons très bon contact avec la clergé chrétien, avec le père catholique et aussi pasteur protestant. Nous, de temps en temps, nous avons notre rencontre, discussion, etc. Et je trouve qu'il y a beaucoup de points communs, en particulier dans l'enseignement de Jésus même dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de points communs parce que je considère par exemple, la pratique de la compassion et aussi l'amour pur, n'est-ce pas, sincère, comme le point essentiel du christianisme, l'enseignement de Jésus. Mais ils sont même façon aussi le point essentiel dans le bouddhisme.
Donc un enseignement de Bouddha ou de Jésus a une même fonction pour l'homme.
Oui. Si quelqu'un vraiment comprend l'essence de l'enseignement, et pas seulement toujours parler de ça, mais pratiquer, mettre dans la pratique, je pense que les deux enseignements pour le même résultat, un très bon résultat pour l'humanité.
Alors, j'espère qu'on l'a pas cassé. Alors, c'est un moine du bouddhisme tibétain. Ça marche, oui. Un moine du
centre de Montpèlerin.
Oui, comme on vous l'a dit au tout début, il travaille au centre, voilà, c'est le directeur du centre bouddhiste du Montpèlerin, qui a une forme de bouddhisme tibétain, donc en lien avec le Dalai Lama. Oui, c'est voilà. Maintenant, un petit bout de témoignage d'un monsieur suisse qui est devenu bouddhiste.
Norbert Genoux, voici un bon programme pour fabriquer des Européens calme, détendu et capable d'assumer le monde effrayant dans lequel nous vivons. D'ailleurs, j'ai vu que vous êtes tout près de la Terre, vous êtes venu directement de votre bureau. Nous aussi, d'ailleurs, vous voyez, on a laissé nos chaussures à l'entrée. Vous êtes arrivé, merci, de Lausanne, pour nous parler de votre vie en tant que laïc dans une foi que nous connaissons mal, nous, en général, chrétiens d'Occident. Alors, comment ça se passe quand on devient bouddhiste? Est-ce qu'on vous regarde d'une autre façon? Est-ce que vous le dites? Est-ce qu'il y a du prosélytisme? Est-ce qu'il n'y en a pas?
Alors, non, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas approché par des gens externes. C'est-à-dire qu'on se sent attiré par cette philosophie depuis tout jeune, je pense. Et puis ensuite, c'est les lectures qui font qu'on s'intéresse à cette philosophie. Bien sûr, ensuite, il y a une démarche personnelle. C'est-à-dire que je suis venu au Mont-Pèlerin il y a quelques années. Là, j'étais un peu étonné de voir les des rituels, de voir les moines, de voir ces chants sacrés. Et puis je me suis dit que c'était peut-être pas quelque chose pour moi. Et cependant, je suis resté parce que je n'étais pas attiré particulièrement par la culture, mais surtout par cette philosophie. Et j'ai remarqué très vite, grâce aux enseignements réguliers de Gangya Rinpoche, que cette philosophie pouvait se transporter dans notre vie de tous les jours, sans rituel, sans culture.
Vous avez dit enseignement régulier. Est-ce que ça veut dire que vous venez prendre régulièrement, physiquement ici, des leçons auprès de Gangya Rinpoche?
Alors moi-même pas. Gangya Rinpoche a fondé il y a bientôt 2 ans maintenant un centre sur Lausanne dont je suis le responsable. Nous sommes environ 250 membres et il nous permet, il vient une fois par mois nous enseigner.
Alors en français lui, en tibétain. Alors,
lui parle anglais et puis Gilberte que vous allez voir tout à l'heure nous traduit en français.
Alors donc vous n'avez pas besoin de savoir vous le tibétain pour être un bon bouddhiste?
Non, pas nécessairement. Disons que ça pourrait aider, mais les éléments que l'on a, c'est-à-dire l'enseignement que l'on a, c'est vraiment un enseignement de base. Et puis, avec les paroles en anglais, en français, les traductions nous suffisent.
Alors, vous avez prononcé le mot philosophie. Alors, qui dit philosophie dit pas nécessairement religion, parce qu'il y a éthique de vie, une certaine démarche humaine, et puis il y a le côté religieux qui, lui, est beaucoup plus puissant, beaucoup plus porteur de vie. Est-ce que vraiment vous vivez le bouddhisme comme une foi ou comme une philosophie?
Alors c'est difficile à dire, des fois ça se mêle. On ne peut pas le vivre simplement en tant que philosophie. C'est-à-dire que je viens régulièrement ici au Mont Pèlerin pour pouvoir partager avec la communauté un petit peu les rituels pour se sentir ensemble. Ça c'est essentiel. Et la philosophie, je la vis dans tous les jours, c'est-à-dire avec ce que je fais, comment j'agis. Et puis, je regarde un petit peu les résultats, positifs ou négatifs, à la fin de la journée.
Est-ce que dans votre travail, ça vous semble, je vais utiliser un mot horrible pour vous, mais utile?
C'est capital pour moi. Ça l'est devenu, en tout cas depuis 2 ans. J'ai contact avec de nombreuses personnes et je suis obligé, effectivement, d'introduire cette philosophie dans ma vie. Sinon, je serais malheureux. Et je crois qu'au niveau du travail, ça se ressentirait. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai trouvé une certaine stabilité au niveau philosophique, et cette stabilité se fait ressentir aussi au niveau professionnel.
Donc vos collègues sentent que vous êtes peut-être plus sage que d'autres collègues, et ou est-ce qu'ils vous le disent au moins?
Je ne pense pas, non. Cependant, ils ont remarqué qu'il y a un certain changement, c'est vrai. On essaye de toujours être le plus près possible de la réalité, et puis d'éviter des conflits, par exemple. Un exemple, quand j'aimais bien discuter des problèmes, maintenant en fait on essaye de les régler tout simplement et je n'essaye pas forcément d'avoir raison.
Ça c'est de la sagesse.
Dernière petite séquence, voilà, je ne fais pas trop de commentaires, hein, je vous laisse simplement écouter. Dernière petite séquence, est-ce que les Tibétains sont intéressés à la foi chrétienne? Alors, on est à 2809.
Rinpoche, beaucoup de gens comme nous s'intéressent donc à cette foi et à la foi philosophie de l'Orient. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a quelquefois des gens du Tibet, d'Orient, qui s'intéressent à nos croyances et foi, par exemple, chrétienne d'Occident?
Le contraire est vrai. Par exemple, je pense qu'il y a aussi entre les moines tibétains, n'est-ce pas, communauté monastique, entre les maîtres aussi. Par exemple, je suis moi-même très intéressé par l'enseignement du christianisme. J'ai essayé de lire pas mal de livres, n'est-ce pas, et j'ai aussi trouvé beaucoup d'enseignements complètement unis, n'est-ce pas, avec l'enseignement de Bouddha, par exemple, l'enseignement sur la montagne, dans la Bible, n'est-ce pas. Pour moi, c'est exactement comme l'enseignement du Bouddha, n'est-ce pas. Il y a beaucoup de points communs, et il y a aussi beaucoup d'autres collègues qui sont très intéressés, n'est-ce pas, dans l'enseignement de christianité.
Rinpoche, nous avons ici, un petit peu pour nos téléspectateurs, surprise, puisque nous avons auprès de nous.
J'arrête. être là, mais c'est pas la seule fois que je remarque que pour les gens de cette culture, leur point de vue, c'est de voir d'abord les convergences quand on leur parle de la Bible et de l'Évangile. Et ce n'est pas non plus la première fois que je vois que le texte qui cite le plus comme étant convergent, c'est le texte préféré de notre cher pasteur Claude Bécher, qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Voilà. Alors, ce que je vous propose comme petit parcours après ce préambule, c'est de faire quand même une brève présentation générale du bouddhisme. Quelques notes sur, quelques petites explications sur les concepts de base. Un aperçu du bouddhisme vécu au Laos, avec quelques photos. C'est quelque part assez différent, hein, mais voilà. Et puis, j'aimerais terminer en reprenant les grandes questions qui sont à la base du bouddhisme et qui sont aussi présentes dans la Bible, pour voir un petit peu comment la Bible les apporte. Donc, je dirais, voilà, il y a des convergences et il y a des contrastes. Voilà. Alors, pour cette partie un peu historique, pour tout vous dire, je vais suivre un petit peu, en partie, ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, qui est un bon résumé, mais si vous le lisez juste comme ça, ça paraît très sec et abstrait. Il commence par dire d'ailleurs que le bouddhisme, selon les points de vue, c'est une religion ou c'est une philosophie ou c'est les deux. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça remonte environ, parce que là, on n'a pas des sources historiques très précises, au 5e siècle avant Jésus-Christ en Inde. Le bouddhisme, c'est un peu la quatrième religion du monde, d'après les statistiques, avec entre 200 et quelques et 500 millions d'adeptes. Vous voyez que les chiffres ne sont pas très, très, très précis. Après, le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Maintenant, le bouddhisme, il comporte tout un tas de variétés de pratiques méditatives, de rituels religieux, avec des prières, des offrandes, des pratiques éthiques. Il y a des théories psychologiques et métaphysiques là-dedans, une certaine cosmogonie. Voilà, il y a tout ça dans le bouddhisme. Et puis une notion de Dieu qui est inexistante dans la philosophie bouddhiste, mais quand même, il y a beaucoup de rituels qui ressemblent à de l'adoration et des prières. À qui ? Je ne sais. Voilà. Alors, selon la tradition, le Bouddha était né dans une famille riche, une famille d'une caste, hein, dans l'Inde des castes, famille riche. Et à un moment donné, il sort de son environnement un peu luxueux et il découvre, voilà, un vieillard, un malade, il découvre les souffrances de la vie. Et c'est ça qui est un peu le démarrage de sa réflexion. Cette confrontation qui l'amène à ce qu'il appelle l'éveil, où, voilà, dans une espèce de réflexion personnelle, il comprend un peu la source de la souffrance, pour le dire de manière un peu simpliste. Et c'est là qu'avec l'enseignement à ses disciples, naît une nouvelle religion, mais qui ne va pas se développer en Inde, curieusement. Elle va se développer dans tous les pays environnants. Mais le bouddhisme, qui est d'origine indienne, n'est pratiquement inexistant en Inde, en tout cas très, très minoritaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cet éveil ? Pour les adeptes de la religion Theravada, la forme, le bouddhisme des ancêtres, si vous voulez, celle qui est le plus proche en principe de l'origine, l'éveil est la compréhension parfaite et la réalisation des quatre nobles vérités. Alors, ces nobles vérités, on va dire ce que c'est. C'est d'ailleurs intéressant parce que il y a les quatre vérités, il y a le chemin octuple, il y a beaucoup de choses qui vont avec des nombres. Ça, c'est un petit peu le même système que dans les proverbes. Il y a trois choses et quatre, et il y a l'utilisation un peu pédagogique des nombres. Mais c'est vrai que dans la forme Mahayana, celle qu'on appelle Mahayana, qui est développée un peu différemment, cet éveil, ça consiste aussi à quelque chose de plus altruiste, de plus tourné vers l'autre. Alors, ces quatre nobles vérités, c'est pas évident à comprendre pour un occidental. C'est d'abord la constatation de la souffrance. Alors, le mot qui est utilisé, il a un sens plus vaste que souffrance, parce qu'il signifie tout ce qui nous insatisfait. Parce que c'est même le bonheur éphémère, c'est aussi la souffrance. Puis la deuxième, c'est reconnaître l'origine de la souffrance. Selon le bouddhisme, ça vient du désir, de la soif, de la soif de posséder, d'exister, voilà. Et la troisième vérité, c'est que cette souffrance peut cesser par un travail de compréhension. Puis la quatrième, c'est le chemin pour y arriver. Le chemin menant à la fin de la souffrance. Et c'est là qu'on trouve le chemin octuple. Voilà. Alors, la conception de l'existence qui est là derrière, elle est aussi très étrange pour nous. Parce que nous, on est très axé sur la personne. Mais le soi, le moi, c'est une illusion selon le bouddhisme. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas quelque chose d'uni. Tout est impermanent. Tout est comme une rivière qui, c'est toujours la même rivière, mais c'est quand même toujours autre chose. Alors, il n'y a pas de soi, il y a une impermanence de tout. C'est très étrange. C'est très étrange parce que justement, cette idée d'un soi, que j'existe moi, c'est une illusion dont je dois me débarrasser, selon la philosophie bouddhiste. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'idée des renaissances? Puisque dans la religion bouddhiste, comme dans l'hindouisme, on a l'idée d'existence successive. Alors, on nous dit que c'est ni moi, ni pas moi. Vous voyez à quel point c'est précis, hein, dans une autre vie. Puisque c'est même pas moi, peut-être, quand j'avais 10 ans, et puis moi, maintenant, qui ai passé 70, c'est pas... Il y a une continuité, mais c'est pas le même. Alors, c'est très déroutant, hein, comme conception des choses. Mais c'est ça que le Bouddha enseigne. Alors, en fait, l'idéal, c'est d'échapper à cette roue des renaissances. Ce n'est pas une réincarnation comme on la conçoit en Occident, ce n'est pas une seconde chance, c'est... C'est vraiment le but ultime, c'est d'échapper. Parce que c'est ce désir d'être qui nous fait renaître et qui nous fait renaître dans la souffrance et qui fait se perpétuer cette espèce de cycle infernal auquel on essaye d'échapper. Donc celui qui atteint vraiment le but ultime ne renaît plus. Alors, je vous parlais de ce chemin octuple. Je ne vais peut-être pas tout vous le décrire en détail, mais c'est des choses qui sont aussi quelque part très abstraites. Et c'est difficile de les tenir en main, si vous voulez. C'est compréhension juste, pensée juste, parole juste, action juste, mode de vie juste, effort juste, attention juste, concentration juste. Mais tout est en somme basé sur, vraiment sur un effort d'être juste, d'être correct. Et on recherche des valeurs qui sont, c'est peut-être pour ça aussi qu'il les retrouve dans les textes bibliques, qui sont la bienveillance, qui sont la compassion, qui sont la joie altruiste, hein, la joie de voir quelqu'un d'autre heureux. Et puis, l'équanimité, c'est-à-dire ce sentiment égal, quelles que soient les circonstances. Alors maintenant, l'éthique. Dans le bouddhisme, la conception de base, c'est ça surtout qu'on voit chez les gens, je trouve, le plus fortement, c'est l'idée que toutes les actions qu'on fait, toutes les actions volontaires, ont des conséquences inéluctables. C'est d'ailleurs ça qui a, c'est l'idée du karma. Le karma, ça veut dire les actions volontaires, en fait. Mais les actions volontaires dans un cadre où tout ce que je fais a des conséquences. Et c'est une espèce de mécanique, c'est une loi naturelle, si vous voulez, comme la loi de la gravité pour eux. Donc, on s'efforce de vivre pour avoir des actions qui ont des résultats positifs et éviter celles qui ont des résultats négatifs. En pratique, dans les pays bouddhistes, les règles sont plus strictes hein, pour les bons que pour le commun des mortels. Mais c'est les saints préceptes, je vous l'ai dit quand même, s'efforcer de ne pas nuire aux êtres vivants, voilà, ni prendre la vie, voilà. Mais pour les bons, hein, pour la, je veux dire, ça va jusqu'à dire qu'ils ont un petit balai pour balayer le chemin devant eux, pour éviter d'écraser des insectes quand ils se baladent, pour ne pas prendre la vie. S'efforcer de ne pas prendre ce qui n'est pas donné, donc c'est tu ne voleras pas, hein, quelque part. S'efforcer de ne pas avoir une conduite sexuelle incorrecte, alors c'est pas précisé ce que c'est, voilà. S'efforcer de ne pas user de paroles fausses ou mensongères, hein, voilà. Et puis, s'abstenir d'alcool et de voilà, tout ce qui ressemble à des drogues, à des intoxicants. Voilà, alors tout ça est développé et décliné de différentes manières, etc. Mais en plus de ça, il y a les pratiques, et c'est ça souvent qui attire les Occidentaux, des pratiques de méditation qui ont pour but de développer la conscience éveillée. Donc cette espèce de juste compréhension que le bouddhiste est censé atteindre, avec une certaine forme de concentration. Mais là, le bouddhisme aussi a de nombreuses voies différentes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une variété énorme dans le bouddhisme. Cette idée de cette base de la souffrance et de comment y échapper, pour le dire de manière simpliste, ça c'est la base que vous retrouvez partout. Après les méthodes, les écoles, les styles de méditation, les rituels, il y a énormément de différences, et il y en a probablement plus qu'entre les différentes variétés du christianisme. Les trois principales qu'on pourrait citer, c'est le bouddhisme Theravada, c'est le qu'on appelle parfois le petit véhicule. Le véhicule, ça veut dire la voie. Puis petit, c'est parce que ceux de la grande, du grand véhicule, trouvaient les autres petits. Voilà. Donc, eux, ils se disent Theravada, ça veut dire le bouddhisme des ancêtres, ça veut dire un peu le retour aux sources. C'est le type de bouddhisme qu'on a au Laos, en Thaïlande, au Cambodge, au Sri Lanka, sauf erreur en Birmanie aussi. Et puis vous avez le bouddhisme du grand véhicule, par exemple au Japon, qui lui voit plus le chemin que le fidèle fait comme quelque chose qu'il fait aussi pour les autres. Et puis vous avez le bouddhisme tibétain, qui est en particulier celui qui était décrit dans le film, voilà, et qui est le plus connu chez nous. Le Dalai Lama, voilà. Alors, juste une note pour terminer. En France, il y a apparemment environ 500 000 bouddhistes. Mais Frédéric Lenoir, le sociologue Frédéric Lenoir, avait estimé il y a quelque temps qu'il y aurait 5 millions de sympathisants. Mais évidemment, des sympathisants, c'est un terme extrêmement vague. Alors voilà, là derrière, qu'est-ce que c'est que ces concepts de base? Donc je les reprends. L'histoire de la souffrance, hein, qui a un terme plus vaste, comme j'ai essayé de le dire, avec cette méthode pour comprendre la chose, pour s'en détacher, cette visée d'éteindre un peu, d'éteindre le désir, d'éteindre cette soif. Merci. Merci, voilà. Donc cette idée de base de la souffrance, ensuite cette idée du karma, qui est vraiment pour moi ce qui anime le plus fort les gens, parce que c'est une loi inexorable. Et les Laotiens, ils disent, c'est très bref en laotien, « Het di dai di, het sua dai sua ». Si, j'arrive pas à le dire si court en français, ça, mais ça veut dire agis bien et tu as un bon résultat, agis mal et tu as un mauvais résultat. Mais ça se dit en deux fois quatre mots, d'une syllabe. Voilà. Mais c'est vraiment comme ça que les gens le vivent. Et puis, le cycle des renaissances, le samsara, qui est donc assez différent de la réincarnation, avec ce but ultime qui est quelque chose de complètement indéfinissable. Alors il ne faut pas essayer de le définir, parce que si vous prétendez le définir, les bouddhistes vous diront que c'est forcément faux, parce qu'on n'est pas capable de le comprendre dans notre état d'ici, ce nirvana. Mais c'est quelque chose où on a terminé avec le désir et tout ce qui anime notre vie présente. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais ce que je peux dire, c'est que dans la réalité, les gens, ils ont des fois des rêves très concrets. C'est-à-dire que le nirvana, c'est tellement lointain que ce qu'ils rêvent surtout, c'est de renaître dans une vie où ils seront riches et auront du succès. Quelle est la différence à leur entrée dans la réincarnation? La réincarnation, c'est un peu l'idée, qu'est-ce qu'on peut dire, l'idée courante qu'on est la même personne qui renaît, etc. Et puis, en vraie philosophie bouddhiste, on ne peut pas dire que c'est la même personne. Voilà ce que je dirais.
Mais ils croient aussi qu'ils peuvent se réincarner en âge.
Oui. Oui, c'est pas le pied. Hein. C'est pas le pied, mais voilà, ça peut arriver. Si vous avez fait trop de... Voilà. Si vous avez trop exploité votre prochain, ça peut arriver. Voilà. Et puis, cette notion d'impermanence, donc il n'y a pas de soi, il n'y a rien qui est tout. Tout est des agrégats, de choses, de conditions, et rien n'existe en soi, il n'y a pas d'unité de l'être. Et en cela, le bouddhisme est différent de l'hindouisme. Qui a une notion du tout, de l'un, etc. Il n'y a pas ça dans le bouddhisme. Alors, la vie avec ça, la vie ordinaire des bouddhistes, pour revenir à ce qui se passe dans le concret. Ben, religieusement, elle se passe à acquérir des mérites et aussi à éviter ce qu'est le contraire. Et en laotien, ça se dit « het bun ». Alors, c'est intéressant parce que « het bun », ça veut dire « faire du mérite », mais le même mot, il signifie aussi la fête. Parce qu'on fait des tas de fêtes tout au long de l'année et le but, c'est d'acquérir des mérites. Vous verrez peut-être dans une illustration des mérites pour une meilleure vie future en pratiquant le bien, en pratiquant la compassion, mais aussi de manière indirecte. Parce que quand on fait des offrandes aux bons, qui eux sont un peu plus loin sur le chemin, on acquiert aussi des mérites. Et puis finalement, ni Dieu ni créateur. Dans le bouddhisme philosophique, il n'y a pas de Dieu créateur. Il y a l'homme tout seul qui doit comprendre et faire son chemin. Il n'y a pas d'histoire. Le monde n'a pas d'histoire. C'est plus ou moins un monde cyclique, mais ce n'est pas vraiment que la même chose revient. Il n'y a pas de notion d'une histoire, du monde qui a une histoire. Il y a une idée. L'idée, c'est que le monde a une très longue durée. Et une des images qu'ils utilisent, c'est de dire que si quelqu'un prenait une étoffe toute fine et puis chaque jour caresserait l'un des immenses rochers de l'Himalaya, je ne sais pas où il est, mais voilà. Ben, quand il aurait fini d'user le rocher... ça ne serait pas encore une des étapes du monde. Donc pour eux, voilà, ils n'ont pas l'idée d'un monde en 6000 ans. Hein. Voilà, c'est un monde très long. Mais un truc intéressant que je signale quand même, c'est qu'il y a un astrophysicien vietnamien, donc d'origine bouddhiste, dont vous avez peut-être entendu parler, Trinh Xuân Thuan, qui lui voit que le monde a une histoire par l'astrophysique. Dire qu'il a un commencement, c'est peut-être trop, mais en tout cas, il a une histoire. Et ce n'est pas le monde que révèle l'astrophysique n'est pas celui qui est derrière la philosophie bouddhiste. Et c'est intéressant parce qu'il pose la question, il ne va pas jusqu'à dire qu'il y a un Dieu créateur, mais il est un peu sur ce chemin de dire qu'il y a au moins une intelligence là derrière, par ses recherches scientifiques, et c'est quelque chose qui met en contraste avec la philosophie bouddhiste. Voilà. Oui, alors personne, je ne sais pas s'il met une personne, voilà. J'oserais pas dire qu'il va jusqu'à un dieu personnel, mais voilà. Et puis, finalement, sur le plan de l'éthique, le bouddhisme prône une éthique de la bienveillance, du respect, une éthique non violente. Donc, c'est vrai que c'est des points sur lesquels il y a des points de convergence. C'est quelque chose qui est très proche de l'éthique chrétienne. Et c'est vrai que souvent, là où nous, on voit d'abord les différences, eux ont tendance à voir d'abord les convergences. Mais je reviendrai un peu à la fin sur ce qui est convergence et contraste. Alors, pour vous montrer, pour vous introduire un petit peu au bouddhisme vécu, je vous montre juste quelques images. Voilà, donc vous avez des magnifiques pagodes comme celle-ci. Et vous avez un élément, la vie quotidienne des gens, c'est les bonzes qui font la quête tous les matins. Parce qu'ils ont une vie quand même d'ascète. Hein. Ils ne mangent pas au-delà de midi, ils font la quête le matin et les gens leur donnent à manger. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas eux qui disent merci. parce que c'est les gens qui disent merci d'avoir l'occasion d'acquérir des mérites. Voilà une image d'une cérémonie bouddhiste. Alors, ils ont des cérémonies qui sont la plupart du temps dans des langues incompréhensibles des gens, parce que c'est des textes en pali et en sanskrit. Et ils n'ont pas des réunions régulières comme nous, on a des cultes. Mais ils ont des cérémonies, ils ont toutes sortes de fêtes au cours de l'année à différentes occasions. Maintenant, je vous remontre une pagode parce que ce que vous voyez là, le petit signal, c'est des petites choses qu'on trouve tout autour des pagodes. C'est des plaques où c'est marqué que un certain monsieur a donné 20 millions de kip. Bon, ça fait environ 200 dollars. Hein. Non, 20 millions de kip. Non, c'est 2000, pardon. C'est, non, non, non. Non, non, 20 millions de kip, c'est 2000. Oui, 2000 euros, on va dire, plutôt. Oui, voilà. C'est déjà pas mal, quand même. Voilà. Mais c'est aussi une partie dont les gens acquièrent des mérites et ils aiment bien que ça soit affiché. Je ne pense pas que vous proposez de faire pareil autour de l'église de Mérin. Alors, les morts sont le plus souvent incinérés. Là, c'était l'incinération d'une personne importante, il n'y a pas très longtemps, photographiée. Voilà. Ah oui, alors là, c'est pas un four crématoire, hein, c'est... Ouais, pardon, ouais, voilà, ouais, pardon, voilà, ouais, voilà. Non, c'est assez impressionnant quand ils en font un grand comme ça. Maintenant, ça, je vous le montre parce que j'ai trouvé intéressant, parce que le bouddhisme, hein, sur l'au-delà, c'est complètement différent du christianisme. Puis ici, il y a une espèce de description du ciel et de l'enfer, mais ça ressemble terriblement à l'imagerie du Moyen-Âge qu'on a. Hein? Et puis c'est écrit en anglais dessus, si j'arrive à le lire. Nirvana Paradise, final destination from people making merits and good deeds. Donc le paradis du Nirvana pour les gens qui ont agi bien. Qui ont bien agi. Et puis, l'autre chose, destination for people committing sins and bad deeds. Okay, donc, c'est l'enfer pour les gens qui ont commis des péchés, des mauvaises actions. Vous voyez, avec des espèces de diables, avec des arbres, avec des épines, avec des... Voilà. C'était une pagode près de Vientiane. J'ai trouvé intéressant de retrouver finalement nos imageries moyenâgeuses du ciel et de l'enfer dans un pays bouddhiste. Et je ne pense pas que ceux qui ont été voir les peintures du Moyen-Âge en Italie. Voilà. Ceci est un... C'est le monument principal à Vientiane. C'est en fait un monument funéraire qui est censé contenir un ongle, un cheveu ou quelque chose du Bouddha. Et dernière chose, c'est une cérémonie qui n'est pas une cérémonie bouddhiste, mais dans l'esprit des gens, le bouddhisme dans la pratique, le bouddhisme tel qu'il est vécu, il est allié, sans être mélangé, mais à d'autres couches religieuses. Et ça, c'est une autre couche religieuse dans laquelle on fait des cérémonies pour rassembler un petit peu les esprits d'une personne qui est partie ou qui a vécu quelque chose de voilà, qui a, ça peut être un mariage, ça peut être un départ à l'étranger après la fin des études ou quelque chose comme ça, avec l'idée que peut-être tous les différents esprits de la personne n'ont pas tous suivi, puis qu'il faut les rassembler. Mais en fait, c'est ni du bouddhisme ni de l'animisme. C'est encore une autre couche de tradition, mais qui est intégrée dans la vie religieuse des gens. Voilà. Juste quelques éléments comme ça pour vous donner... Et vous voyez un peu le contraste qu'il y a quelque part entre le vécu et la philosophie. Alors, juste une ou deux histoires pour vous montrer comment les choses sont vécues. Je pense à une histoire qui m'a beaucoup frappé. Il y a un monsieur qu'on connaissait bien, Armand l'a très bien connu, monsieur Bujoli. C'était notre constructeur vietnamien pour tous les bâtiments. Il est parti en Thaïlande quand il y a eu les communistes qui sont venus. Il faisait un peu de la résistance, un beau jour. Ils sont rentrés à Savanakhet où ils habitaient. Malheureusement, il y avait du monde dans leur maison. Donc, ils ont mis très longtemps pour réussir à retrouver leur maison. Puis finalement, ils ont réussi à récupérer leur maison. Puis M. Bujoli tombait malade. Il était se faire soigner en Thaïlande voisine, mais il n'en a pas réchappé. Puis je visite la veuve qui était éplorée, voilà, ils venaient de retrouver enfin leur maison, leur rêve, elle perd son mari. Et est-ce qu'elle me dit de son mari, en laotien, Bun Bopo, pas assez de mérite. Il n'a juste pas eu assez de mérite pour qu'on puisse terminer notre vie ensemble. J'ai trouvé que c'était vraiment typique de la manière dont ils vivent la relation entre les mérites et voilà, les résultats. Puis une autre chose que j'ai vue, mais je ne retrouve pas la photo. Un jour, à ce bâtiment où il y avait le Trat Luang que je vous ai montré, hein, ce monument funéraire, il y avait des prières déposées quelque part. Dans ce bouddhisme, on n'est pas censé avoir de Dieu. Hein. C'était quelqu'un qui demandait, qui priait pour que sa fille ou sa nièce, je ne sais pas quoi, puisse avoir son visa pour aller aux États-Unis, etc. Voilà, des choses, des prières très concrètes. Maintenant, de l'autre côté, j'ai une fois assisté à une conférence d'un prêtre bouddhiste cambodgien qui, lui, était axé sur le bouddhisme philosophique. Ça, c'était à Paris. Et j'étais très frappé parce que il était très fier de dire « Le bouddhisme, c'est la seule religion qui ne véhicule pas l'illusion que vous pouvez faire appel à quelque chose plus haut. Elle vous dit la vérité. Vous pouvez faire votre chemin que tout seul. » Et c'est ce que vous trouvez dans les livres où il y a vraiment le bouddhisme philosophique de base. Puis sur cette éthique qui a beaucoup de similarités, moi je pense qu'il y a des gens dans lesquels Dieu peut travailler dans le cœur des gens, même à travers une autre religion. C'est parce que je pense au témoignage de mon ami Pat Kuhn, certains d'entre vous ont peut-être lu ce livre, « Rescapé malgré moi ». C'est un rescapé des Khmers rouges, qui a passé, je crois, un ou deux ans à traverser les montagnes à pied, pour finalement arriver en Thaïlande. C'est là qu'il a découvert l'évangile. Mais on voit à quel point il avait un espèce de sens de ce qui est juste, hérité de son père qu'il admirait beaucoup, et qui était un bouddhiste qui avait une religion vraie, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment sincèrement faire le bien autour de lui. Alors, j'en sais rien s'il est sauvé ou pas, c'est pas mon problème. Ce que je vois, c'est que Kuhn il reconnaît quelque chose de quand même que Dieu lui a parlé déjà à travers ça, et il voit comment Dieu, alors qu'il ne le connaissait pas, l'a plusieurs fois délivré au cours de son voyage. Et il découvre finalement qui est ce Dieu en rencontrant un missionnaire depuis sa prison en Thaïlande. Oui, désolé. Alors, j'en arrive... J'en arrive maintenant à je sais pas, j'ai pas regardé l'heure, je sais pas si c'est le temps qu'on a encore. 21h, ouais, ça va encore. J'aimerais désolé. Non, ça c'est pas grave. Voilà. Le bouddhisme est quand même animé par ces grandes questions, en particulier cette grande question de la souffrance, et quelque part la souffrance injuste, et lui donne une certaine forme de réponse. Mais cette question est très présente dans la Bible, et je pense que ça serait présomptueux de vouloir dire la réponse biblique, parce que la Bible l'aborde de manière variée, mais très différente de celle du bouddhisme. Mais le premier texte que je vous suggère, alors on ne peut pas les étudier en détail, hein, mais ça peut être matière à réflexion. L'aveugle de naissance, vous connaissez l'histoire. Jésus voit un homme aveugle depuis sa naissance et ses disciples lui demandent, « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle ?» Ce qui veut dire que pour les disciples, ça ne fait pas de doute. S'il est né aveugle, il y a un péché qui en est la cause. Et si ce n'est pas le sien, c'est celui de ses parents. Ouais. Bon. Ça veut dire que c'est la conception des disciples. Ils sont presque bouddhistes, à part qu'ils ne disent pas une vie passée, mais ses parents. Mais c'est la même réaction que n'importe quel bouddhiste a quand il arrive malheur. Le malheur a été causé par une mauvaise action, dans cette vie ou dans la vie passée. Et Jésus renverse la chose en disant, ni lui ni ses parents n'ont péché. Bon, tout le monde a péché, hein, mais ce qu'il veut dire, c'est pas là le problème. Mais on va en faire quelque chose, Dieu va en faire quelque chose. Alors, c'est pour que l'œuvre se manifeste en lui. Naturellement, il ne faut pas lire ça comme il a fait exprès qu'il soit aveugle pour que je puisse le guérir. D'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il renverse, Jésus renverse le raisonnement en se portant vers l'avant. Est-ce que Dieu va faire avec ça ? Alors, dans la Bible, il y a plein de textes qui rapportent une espèce de conception traditionnelle qui est dans ce psaume 1 qu'on aime bien lire. Alors, on ne va pas tout le lire, mais heureux celui qui ne suit pas le conseil des méchants, etc. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais ce n'est pas le cas des méchants. La conduite des méchants les mène au désastre. Autrement dit, comme disent les bouddhistes, si tu agis bien, tout ira bien. Si tu agis mal, tout ira mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des autres psaumes qui posent le problème. Par exemple, le psaume 94. Pour combien de temps, Seigneur, ces impies vont-ils triompher? Ils fanfaronnent, ils se vantent. Ils écrasent ton peuple, ils humilient ton patrimoine, ils massacrent la veuve et l'immigré. Et comme on le voit, c'est souvent l'exploitation sociale éhontée qui est désignée. Ils disent, le Seigneur n'y voit rien, le Dieu de Jacob ne sait rien. Alors le psaume parle aussi du sort final des méchants, mais visiblement, ils constatent, et les gens constatent, qu'il y a des horribles bons hommes à qui tout réussit. Ils font des crasses partout, et puis pas de punition. Et puis il y a aussi la même question dans les psaumes 10 et dans le psaume 73. La Bible est extrêmement réaliste. Et c'est intéressant que ces différents textes qui notent ces choses les abordent de manière contrastée. À l'histoire des raisins verts, qui est dans Ézéchiel, mais aussi dans Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée. Pourquoi entend-on répéter ce proverbe en Israël? Les parents ont mangé des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Et là, il y a une affirmation qui est suivie tout un tas d'exemples pour dire, mais c'est le coupable qui doit mourir, ce n'est pas ses enfants. Et puis, il y a toute une série d'exemples, et à la fin, vraiment, je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu, je ne veux la mort de personne, détournez-vous du mal et vivez. Donc, c'est une perspective d'appel à la repentance, parce que Dieu a envie qu'on vive. Donc c'est déjà, voilà, c'est un Dieu bienveillant et qui cherche la justice. Mais ça montre quand même cette question que les gens se posaient à travers un tel proverbe. Maintenant, le livre de Job, naturellement, là, il faudrait une semaine et pas 3 minutes dans une soirée pour en parler. Mais le livre de Job s'attaque tout entier à cette question. On met en scène un personnage ultra riche à qui il arrive tous les malheurs du monde et des amis qui ont une conception très bouddhiste des choses. Il t'est arrivé des bricoles, c'est que tu as dû faire des bricoles. Alors Job se plaint, pourquoi Dieu fait-il voir le jour aux malheureux? Pourquoi donne-t-il la vie à ceux qui mènent une vie amère, qui attendent la mort sans qu'elle vienne, qui la recherchent plus qu'un trésor? Vous imaginez, je recherche la mort plus qu'un trésor. Il n'avait pas exit, hein, Job. Et puis le bel Eliphaz qui vient lui dire, ben, rappelle-toi, est-ce qu'il y a jamais un innocent? Quel innocent a jamais péri? Voit-on vu des hommes droits disparaître? Donc il vient avec sa théologie de la bénédiction-malédiction en rapport avec... voilà. Et puis Bildad, la même chose. Ressasseras-tu toujours ces choses? Dieu fausse-t-il le droit? Shaddai fausse-t-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés au pouvoir de leurs crimes. Ah ben, c'est peut-être pas toi, mais tes fils, hein. Puis t'es un peu responsable. Et puis Eliphaz qui vient lui dire, tu vas même jusqu'à ruiner la religion, à détruire toutes les bases de la foi. Si tu prétends que t'as pas fauté, alors qu'il t'est arrivé un malheur, t'es en train de détruire les bases de la foi. Et Job répond, j'ai entendu 100 fois ce genre de discours, quel pénible consolateur vous êtes tous. Alors c'est juste quelques petits extraits, hein, mais ça dure 40 chapitres, hein, cette histoire-là. Alors Job est rétabli à la fin. Dieu donne tort aux amis. Dieu donne raison à Job. Okay. Mais ça veut dire que tout ce texte est fait, tout ce livre est écrit pour contester cette conception présente un peu partout, mais qui est souvent présente chez nous chrétiens aussi, de cette espèce de rétribution automatique entre bien et mal, et de lien qu'on fait entre le malheur et une cause qu'il doit y avoir eu pour l'expliquer. Et puis je prends ce texte qui est aussi souvent utilisé de manière très hérétique dans certains milieux chrétiens. Ça se trouve, c'est l'histoire des malédictions sur 2, 3 ou 4 générations et des bénédictions à 1000. Alors ça se situe dans l'alliance avec les commandements. Et il est dit, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exclusif ou exigeant ou jaloux, suivant les traductions. Je punis la faute de ceux qui me détestent, j'interviens contre eux et leurs descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération, mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Je voulais vous dire que, si je retrouve, je ne retrouve pas le papier, mais sur un des sites internet où il y a certains commentaires sur ce texte, il y en a un qui parlait de qui parlait d'une loi mécanique, hein, qui provoque la malédiction. Mais on croirait lire une phrase bouddhiste. C'est un site chrétien évangélique, mais on croirait lire une phrase bouddhiste dedans. Parce que le contraste, il est surtout entre les 3 ou 4 générations. C'est un constat que les actions des parents ont une incidence sur les enfants. Alors tout est rapporté à Dieu, parce que c'est une manière de penser juive. Il vaut beaucoup mieux rapporter les choses à Dieu qu'à des forces incontrôlables, comme chez les païens. Mais ce n'est pas une relation de cause à effet, dans une explication rationnelle à l'occidental. Le constat, il se fait sociologiquement aussi. Si vous regardez les niveaux de vie des descendants des esclaves aux États-Unis d'aujourd'hui, ben il y a encore des différences. Des générations après, on peut le constater sur différentes choses. Mais dans l'Alliance, il y a une dissymétrie invraisemblable entre cette malédiction et cette bénédiction. Donc c'est ça qui est souligné, c'est ça qui est important de ce texte. Alors voilà quelques textes comme ça sur lesquels vous pourrez réfléchir, mais... La Bible tout entière s'attaque à cette question. Alors évidemment, ça commence déjà avec ça commence avec la Genèse, hein, avec le serpent qui... Mais ce serpent dans la Genèse, il arrive de nulle part. Ce n'est pas une explication rationnelle. En plus, il est créé par Dieu, mais il est rusé. C'est quoi cette histoire? Mais c'est, voilà, ce n'est pas une explication. Ça met l'homme en responsabilité. Parce que là, il y a une séduction, mais après, il est responsable de ses actes. Moi, ce que je verrais pour arriver maintenant... Pour terminer, à là où je vois un contraste quand même saisissant, c'est d'une part qu'il y a un Dieu personnel. Il y a un Dieu personnel dès le départ et un Dieu de bienveillance. Donc il y a la bienveillance, mais il y a une source, la bienveillance en Dieu. un Dieu qui fait alliance, un Dieu qui nous rejoint. Et ça, évidemment, c'est la démarche inverse. Se laisser rejoindre par Dieu, c'est, ça, c'est une démarche un peu inverse de cet effort continuel pour acquérir des mérites. Et puis, c'est ce Dieu qui fait grâce. Alors moi, il me semble que la grâce, qui est déjà très présente dans l'Ancien Testament aussi, mais qui culmine en Jésus-Christ, c'est quelque part ce cycle de, ou cette mécanique du karma, comme le conçoivent les bouddhistes, elle est cassée à la croix. Pour moi, c'est là un peu, voilà, moi, il me semble que c'est là qu'il y a le plus grand contraste avec la philosophie bouddhiste. Alors, voilà, peut-être vous avez des questions, des remarques, des... Oui, oui, mais c'est sûr. Mais je voulais dire que c'est à cet endroit que je voyais ce contraste par rapport à cette conception mécanique d'un mal auquel on ne peut pas échapper autrement qu'en s'efforçant de faire du bien. Oui. Certainement, ça l'est peut-être aussi au niveau de la prière, parce que dans le bouddhisme tel qu'il est pratiqué, on répète beaucoup des prières. Ben, on a des moulins à prière, oui, ça existe. Il y en avait à l'exposition Dieu, mode d'emploi, il y en avait un. Voilà. Et puis là, il y en a toutes sortes de choses, il y a des espèces de petits trucs qu'on fait tourner avec le vent. Voilà. Ou dans d'autres traditions, on récite des mantras. Et puis Jésus dit, ne répétez pas de vaines prières, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il y a une intimité avec le Père qui est tout autre chose que ces prières qu'on adresse à je ne sais qui et qu'on doit répéter. Les drapeaux. Ah, je sais pas ce qui signifie, alors, ces petits drapeaux. Oui. Ils croient qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux. Et puis, le Bouddha... qui en principe est un homme, mais si on lit, je relisais des pages dans un bouquin tout à l'heure, dit le Bouddha, ça c'est aussi un peu leur fierté, c'est le seul qui ne s'est pas prétendu Dieu, hein, des fondateurs de religion, voilà. Mais les gens l'ont divinisé quand même, parce que c'est quelque chose de sacré, et finalement on s'y adresse avec des prières. Donc il y a un besoin, de, voilà. Alors le bouddhisme philosophique dira que c'est une... un détournement de voilà, que c'est nos désirs humains, etc. Voilà. Mais on peut aussi reconnaître qu'en creux, les gens reconnaissent qu'il y a un Dieu quelque part, même s'ils ne savent pas le nommer et s'ils lui mettent les attributs de ce Bouddha divinisé. C'est venu avec, ça s'est répandu, pas par des actions missionnaires, mais avec des marchands qui se sont déplacés. Puis ça a été repris par certains rois. Donc c'est quand même quelque part le pouvoir politique qui l'a. Je ne sais pas s'il l'a imposé, mais qui en a fait une religion et c'est devenu très identitaire. Au Laos, en Thaïlande, c'est très fort l'identité bouddhiste. Alors après, les gens des ethnies minoritaires, ils ne sont pas du tout bouddhistes. Ils ont des religions de type animiste ou chamaniste. Oui, oui, oui. Alors c'est pour ça que même dans le bouddhisme, il y a des couches animistes et il y a des bonzes qui pratiquent certains rites qui sont des rites d'origine animiste. Ils vendent des trucs pour deviner l'avenir, par exemple. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement bouddhiste si vous lisez des livres de philosophie bouddhiste. Mais c'est pratiqué dans les pagodes. Alors ça c'est plus quand même. Alors souvent les gens le font, mais c'est vrai que c'est pas du bouddhisme. Ça c'est la couche. Oui. Alors après il y a l'animisme. Les esprits des arbres, des ruisseaux, etc. Puis les esprits des ancêtres, c'est peut-être deux choses un petit peu différentes, mais moi, je ne sais pas assez pour expliquer les choses. Oui. Et les Chinois ont ça aussi. Oui. J'ai entendu des théories sur certains contacts, mais ça m'étonnerait que ça soit que ça soit une explication. Je pense plutôt que ça au fait qu'il y a quelque part un sentiment au fond de nous de ce qui est juste, qui est quand même partagé dans. Alors après, est-ce qu'on le met en pratique, c'est autre chose, mais voilà, alors nous chrétiens, on va dire que c'est Dieu qui a mis ça en l'homme, mais je crois qu'on peut reconnaître qu'il y a un sens éthique. Il y a quelque chose qui est en nous. Alors il est certainement il n'est pas pur, hein. Mais il reste présent. Il reste présent. L'homme déchu reste une image de Dieu. Oui. On avait donc un C'est peut-être aussi par notre manque de mise en pratique que des gens vont chercher ailleurs ce qu'ils auraient pu trouver dans l'Évangile. Je ne sais pas, hein, mais voilà. Alors, c'est vrai que cette conception des choses, elle a aussi pour résultat une certaine indifférence à la souffrance. Alors, dans la pratique, c'est un constat. C'est un petit peu une certaine forme de fatalisme. Alors, une certaine forme de fatalisme peut être une certaine sagesse aussi, d'acceptation de la vie dans ce qu'on ne peut pas changer. Par exemple, dans des situations où la moitié des enfants meurent en bas âge ou à la naissance, ben les gens, je ne vais pas dire, c'est difficile à dire, ils souffrent plus ou moins, mais ils en font moins un plat que chez nous. Okay? Donc, ils acceptent que ça fait partie de la vie. Mais après, si le pauvre bourg qui est à côté et qui rentre par terre, je vais lui donner à manger. Mais si je considère que c'est un peu de sa faute, ça ne me pousse pas à une compassion agissante à son égard. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate aussi. Non, ils disent pas ça. Moi, j'ai jamais vu une chose pareille. Non. Des gens auront peur dans l'épreuve. Ok, mais ça n'a rien à voir avec le bouddhisme. C'est dans tous les pays du monde, comme c'était au temps de Jésus. C'est pas si Armand, hein, jamais entendu un truc. Non, mais il y a aussi des nonnes. Il y a aussi des nonnes, mais c'est moins fréquent. Et il y avait le témoignage d'une femme qui s'est faite nonne à la fin du petit film d'Armand, sauf que quand j'ai voulu faire l'enregistrement, ça s'est coupé, et puis je n'ai pas pu la voir. J'ai eu juste le début, puis ce n'était pas intéressant. Voilà. Mais... Oui. Non, il y a des nonnes. Maintenant, la conception de la femme, c'est une femme dans un bus, hein, une femme ne va jamais pouvoir s'asseoir près d'un bonze. Hein, il y a quelque chose de... Voilà, le bonze, il est un peu sacré et il ne faut pas qu'une femme le touche. Oui, il y a Myriam qui... C'est vrai qu'ils sont en général assez paisibles dans la vie parce que c'est ce qui est promu, hein, dans le bouddhisme. Qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je sais pas comment répondre. Je ne sais pas si Armand aurait une réponse à ça.
Qui a construit l'hôpital de Savannakhet. Je l'ai vu un peu avant sa mort, il était parfaitement paisible.
D'accord, oui, oui. Mais je pense que c'est quelque chose qui attire les gens qui, de voir une certaine sérénité voilà, dans cette religion. Ouais.
Est-ce qu'il y en a qui viennent pauvres en état adulte ou bien c'est chaque fois c'est des enfants qui sont consacrés pour avoir du mérite ou on voit toujours des bandes d'enfants qui sont pauvres?
Non, alors, dans la pratique, on peut être bon temporairement. Et normalement, tous les garçons dans un pays comme le Laos, ils passent un certain temps à la pagode. Ça fait un peu partie de voilà. Et puis, certains deviennent bons à vie, mais ils n'ont pas fait des vœux comme on fait dans les monastères chrétiens. Mais en général, c'est effectivement ceux qui se consacrent à la vie monastique. Ben, ils ont fait ce choix-là et puis ils vivent dans la pagode, ils enseignent, ils font des cérémonies, ils ont une vie quand même assez simple, assez fruste. Je disais, ils n'ont pas le droit de manger au-delà de midi.
Mais en fait, tous ces enfants qu'on voit,
non, ils ne restent pas forcément. Non, pas forcément. Ouais. Alors, c'est variable suivant les pays. En principe, le bouddhisme est très tolérant et non violent. Mais, dans l'histoire, il y a aussi des violences liées au bouddhisme. Et il y a des persécutions dans certains pays. De manière générale, quand même, les bouddhistes sont relativement tolérants. Et comme je vous disais, quand ils voient un enseignement chrétien, ils voient d'abord des convergences. Ils ont tendance à dire « Ah, mais ça ressemble. » Mais en même temps, ça les dispense de se laisser interpeller. Et il faut reconnaître que au Laos, c'est une question qui m'a intrigué, pour laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. Il y a eu la majorité des conversions se sont faites dans les populations qui étaient animistes ou chamaniques. Et il y a eu toujours très peu de gens qui se sont convertis venant des milieux bouddhistes. Mais les bouddhistes sont quand même intéressés. Le premier aide-traducteur pour la Bible, c'était un bonze bouddhiste qui était d'accord d'aider les missionnaires à traduire la Bible. Donc voilà, il y a cette approche quand même qui est a priori favorable, mais pas très prête à se laisser interpeller. Voilà, en deux mots. Ouais, on va peut-être rester là. Je ne sais pas si Claude ou Philippe... Toi qui reviens de Thaïlande, si tu as quelque chose à dire.
J'ai noté une petite chose là, revenant effectivement de ces 10 jours en Thaïlande, où le cœur du témoignage des missionnaires, des permanents, des bénévoles là-bas, réside dans cette petite phrase qu'ils répètent souvent dans leur contact avec des personnes. Alors moi je parlerai plus de culture bouddhiste que de religion bouddhiste, hein, d'arrière-plan bouddhiste que de pratique bouddhiste à proprement dit, et c'est cette petite phrase: Dieu ne te donne pas ce que tu mérites et il te donne ce que tu ne mérites pas. Il brise ton karma, il anéantit ton fatalisme et il te redonne du sens. Et leur témoignage auprès de ces femmes, de ces enfants réside, tourne souvent autour de cette petite phrase, et moi je l'entends comme un espoir et comme un pont peut-être auprès dans notre témoignage auprès de ceux qui seraient bouddhistes, arrière-plan bouddhistes dans nos relations. Merci beaucoup, Sylvain. C'est... gros chapitre que tu as ouvert.
Ouais. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Voilà. Bonne nuit à chacun, chacune, à Marie.